Esprit sorcellerie, comment filmer l'invisible? Avec nous aujourd'hui, le réalisateur Adrien Lavapeur, bonjour.
Bonjour.
Et son complice, l'anthropologue Corto Vaclav, pour le film Congo, présenté l'an passé dans la sélection acide du Festival de Cannes, sorti juste avant le confinement. Il a retrouvé le chemin des salles ce lundi et on s'en réjouit pour lui. Le film montre un Congo en prise avec ses croyances à travers la figure assez romanesque, épique, de Médard, apôtre philosophe, apôtre guérisseur, accusé de magie noire. On le suit dans son Brazzaville et on écoute tout de suite la bande-annonce.
C'est du jamais vu. C'est comme un cauchemar. Apôtre jamais d'armée. Est-ce que ni bakala djodjo ou bien n'ingé? Mais vous avez le plein droit de porter plainte à ce pasteur-là.
Extrait de la bande-annonce de Congo, documentaire actuellement à voir en salle et avec nous, comme un peu l'esprit de cette émission, présent virtuellement. C'est donc votre complice, Corto Vaclav, bonjour.
Bonjour.
Lieu abandonné, présence oubliée, Corto Vaclav, d'où vous vient cette passion commune ?
Cette passion commune, je pense, est née d'abord d'un attrait pour le cinéma et peut-être l'art aussi des surréalistes avec des figures majeures, peut-être comme Gérard de Nerval ou tous ces poètes, artistes qui peut-être se levaient un peu en opposition à une modernité galopante et désenchantante aussi, qui vidait le monde de ses mythes, de son accès à l'extraordinaire. Et bien sûr, pour lors de notre rencontre avec Adrien, l'Afrique est apparue, et le Congo en particulier, comme un véritable musée à ciel ouvert de toute cette richesse de l'enchantement.
Et pourtant, Adrien Lavapeur, pour vous, l'enchantement, en tout cas, la porte d'entrée vers cet univers invisible, ce monde d'esprit, ce monde de croyance aussi, et c'est fait plutôt au Brésil, hein. Ça a commencé un peu plus tôt.
Oui, voilà, c'était à peu près il y a une dizaine d'années. Et en fait, je me retrouve presque par hasard, hein, même si de moins en moins je crois au hasard, mais je me retrouve dans une cérémonie d'ayahuasca. Alors peut-être certains connaissent cette boisson de la forêt amazonienne qui vient des Indiens. Et en fait, dans ce rituel qui s'est passé pendant la nuit, cette boisson nous fait faire un grand voyage dans le monde invisible et quelques heures plus tard, notre esprit réintègre le corps. Et donc à partir de cette expérience, j'ai su que un deuxième monde existait. Et donc naturellement, mes recherches artistiques se sont portées sur cet aspect mystique. Et en fait, quelques mois après cette première cérémonie, eh ben j'avais un travail en Afrique et donc j'ai fait mes enquêtes pour savoir qui étaient ces gens au Congo qui étaient en contact avec les esprits. Et de là j'ai rencontré, je connaissais pas encore Corto à l'époque, j'ai rencontré cette église Ngunza sur laquelle on a fait ce film.
Cette cérémonie rituelle, vous auriez pu simplement l'observer, vous avez choisi d'y participer, de vous prêter en tout cas à cette expérience, avec cette boisson aux effets visionnaires d'ailleurs, hein, pas euphorisant, voilà, c'était vous transporter dans un monde ou un état d'esprit très différent du vôtre, peut-être déjà l'envie, vous l'avez perçu vous comme une prise de risque ou pas, de se détacher un peu de votre raison?
Ben non, parce qu'en fait, quand j'ai pris cette boisson, je pensais que c'était comme un alcool d'un légume ou d'un fruit que je ne connaissais pas, mais j'avais déjà bu de l'alcool, donc je ne m'attendais à rien.
Vous connaissiez pas les effets.
Mais je ne connaissais même pas le mot ayahuasca, et donc tout est arrivé vraiment comme un cadeau. Et finalement, c'était vraiment magnifique cette expérience, parce que j'étais sans aucune attente. Et la surprise a été d'autant plus forte.
Croire ou ne pas croire, Cortot Vaclav, à la présence de ces esprits, à la magie, à la sorcellerie, est-ce vraiment la question, en fait, du documentaire ?
C'est en tout cas la question qu'on s'est posée au début. En arrivant, on avait presque envie de vérifier si la magie et la sorcellerie avaient encore des effets vérifiables, déjà dans la culture, par la pratique, par le langage, par la façon dont au Congo, cette dimension est omniprésente, vraiment des hautes sphères de la société jusqu'aux personnes les plus modestes, tout le monde consulte lorsqu'ils ont des problèmes, des maladies, des conflits, un guérisseur ou un féticheur ou un gunza comme Médard. Donc nous, on voulait en fait aller se confronter à cet univers pour vérifier, mais à un moment, on a vraiment dû, face à certains événements, quelquefois surnaturels ou inexplicables, pour lesquels nous avons commencé à investiguer, savoir par des preuves positivistes, rationnelles, est-ce qu'on pouvait les expliquer. Et on n'a pas réussi, et donc on a un moment un peu décolonisé notre regard pour se dire qu'il faut arrêter de presque de croire ou de ne pas croire, et juste filmer ce qui vient et accepter complètement cette réalité.
Et c'est là que vous avez vraiment commencé à filmer. Si vous en aviez fait une question centrale, on imagine que ça aurait forcément influencé le récit, en tout cas que le récit aurait été tout autre, hein, Adrien Lavapeur.
Bah, en fait, on est arrivé vraiment un peu, je vais pas dire comme des touristes, hein, mais on est arrivé avec un désir au Congo, et on pensait vraiment faire un film en quelques mois. En tout cas, moi, je venais de rencontrer Cortot, je lui avais vendu un peu le projet de telle sorte, et en fait, bah, on a été complètement emporté dans cette réalité mystique, et finalement, il nous a fallu 6 ans pour tourner ce film. Mais en même temps, c'est finalement pas tellement surprenant, parce que nous on vient d'un monde occidental très rationnel, et quand même pour se permettre de faire un film sur un aspect mystique d'une culture qui est pas la nôtre, ben il faut un petit peu quand même du temps pour qu'on s'adapte et qu'on comprenne que finalement on ne peut pas comprendre.
Diable au corps, sirène dans une bouteille, enfant foudroyé, une nuit sans orage, il faut avoir les yeux pour le voir. En tout cas, se pose la question de comment filmer l'invisible. Et pour cela, vous êtes parti d'un personnage, d'un apôtre guérisseur qui s'appelle Médard. Comment vous l'avez rencontré et pourquoi lui, en fait? Comment il s'est imposé à vous comme étant le passeur de cette histoire et son incarnation aussi?
À l'origine, lors de mes premiers repérages, j'avais rencontré un autre apôtre d'une autre église, parce qu'il faut savoir que les églises ne sont pas liées entre elles, c'est toujours des petites églises familiales indépendantes, et j'avais trouvé un personnage fabuleux qui était un peu sombre aussi. On savait pas très bien s'il était sorcier ou guérisseur ou un peu les deux, et c'était vraiment un personnage de cinéma. Et sauf que quand on est revenu avec Cortot en 2013, on a appris qu'il était décédé pour des histoires de sorcellerie. Donc on avait continué à filmer dans cette première église, mais seulement on avait du mal un peu à voir sur quelle histoire on brillait. Et puis c'était des gens un peu âgés qui parlaient pas très bien le français, donc ça circulait pas très bien entre nous et eux. Et alors on s'est mis en tête qu'il fallait qu'on change notre fusil d'épaule. Et on est parti, on a fait une sorte de casting d'apôtres. Donc on allait tous les dimanches dans d'autres églises Ngunza pour chercher un nouveau terrain de filmage. Et quand on est arrivé dans l'église de Médard, alors c'était pas un dimanche, c'était un jour de semaine, c'était un matin. Tous les matins, Médard reçoit des malades atteints de mauvais sort pour les guérir. Et j'arrive... On arrive, il était en train de faire une guérison, et en fait ça marche par évidence, hein. Je pense qu'on a tout de suite su que le film devait se passer là, dans cette église, avec lui. Et puis aussi il y avait, c'est-à-dire qu'ils font ce qu'on appelle de l'écriture automatique. Ça veut dire qu'il y a des femmes en transe, tout d'un coup leur main se met à s'agiter malgré elles, hein, parce que c'est un esprit qui prend possession de leurs bras et de leurs mains, et elles demandent un cahier, et dès qu'on leur donne un stylo, un cahier, elles se mettent à faire des lignes comme ça, elles tracent des lignes et des lignes et des lignes sur un cahier, sur la page, que certaines fois ça ondule, et après, donc c'est quand même un message codé, et Médard, l'apôtre Médard qui a la vision, après il prend le cahier et puis il déchiffre, et donc c'est un message d'un esprit toujours adressé à un humain en particulier. Et à partir de là, parce que on se posait ces questions, comment filmer cet invisible, étant donné que notre caméra elle est comme nos yeux, elle voit seulement dans le spectre du visible, et ben alors avec cette technique de cahier et d'écriture automatique, tout d'un coup on pouvait assez facilement montrer le chemin entre les invisibles et les humains.
Vous dites casting, s'il y a casting, c'est qu'il y a mise en scène par la suite. C'est un film pour vous documentaire, pur et dur, ou quand même aussi un film de mise en scène et donc un peu de fiction, votre Congo?
Bah, c'est vrai qu'à l'origine, on voulait faire un film documentaire, mais presque avec l'esthétique d'une fiction. C'est-à-dire que c'est toujours très difficile quand il y a une séquence qui se passe devant vous de pouvoir bien découper sur différents visages. Comme de toute manière, on ne sait jamais ce qui se passe à l'avance. Et en plus, tous nos personnages, bien qu'ils parlent français, tout le monde sait parler français, mais entre eux, ils parlent le lari, qui est le dialecte local. En fait, dans ce film, tout est vrai. Hein, c'est un documentaire, mais on s'est servi de des fois plusieurs rituels, plusieurs pèlerinages pour un peu bricoler, ajouter certains plans de moments qui n'étaient pas qui se passaient différents mois de l'année. Mais le fond de l'histoire est vrai. On voit Médard à un moment se faire accuser dans un tribunal de sorcellerie. Tout ça, c'est la réalité. Et voilà, c'est pour ça aussi qu'on a mis autant de temps, ces 6 années, c'est parce que on avait une grande volonté esthétique de faire un film assez fort, formellement, et de chercher les bonnes lumières, d'attendre que des fois les orages se déclenchent pour créer des moments, disons, apocalyptiques. Et puis je pense qu'on est allé quand même jusqu'au bout de cette première idée de faire ce film, donc on est vraiment très heureux parce qu'on a le sentiment d'avoir été intègre par rapport à notre premier désir.
Mmh. Corto Vaclav, est-ce que vous avez du coup apposé sur ce film et sur cette démarche votre tampon scientifique? Est-ce que vous avez abordé ce sujet avec une approche anthropologique plus ou moins classique, avec en tout cas un souci de fidélité par rapport au sujet observé?
Bon, c'est vrai que j'ai une formation d'anthropologue, mais je suis pas non plus anthropologue, et c'est la raison pour laquelle, en découvrant le cinéma documentaire et le cinéma anthropologique, j'avais trouvé dans cette façon d'approcher le terrain et l'autre, quand même le moyen de toucher à des choses sensibles, de restituer un petit peu plus que des terrains et une analyse, de vraiment arriver à plonger le spectateur, à organiser une rencontre que permet le cinéma. Donc l'anthropologie a nourri un certain rapport au terrain, mais on n'est pas rentré en compte dans la restitution du travail sous la forme du film, quoi. Par contre, pour entrevoir la sorcellerie dans son aspect mystique, il faut aussi comprendre dans son aspect social, comprendre dans les mutations forcément moderne, capitalisme, comment l'individualisme qui arrive dans des traditions de groupe, dans des traditions collectives, déclenche tout un univers aussi violent, avec un imaginaire de la sorcellerie lié un peu au cannibalisme, au fait de se dévorer les uns les autres, de dévorer la nature, tel qu'on montre dans le film. Donc forcément, toutes ces mutations modernes auxquelles l'Afrique trouve des réponses qui sont liées quand même à une oppression et à une déstructuration de son tissu traditionnel et imaginaire. Tout ça, oui, forcément, a accompagné le processus du film et du montage.
Alors évidemment, on pense au maître Jean Rouch, qui en 1957, au moment des Maîtres fous, qui venait de remporter le prix du film ethnologique à la Biennale de Venise, consacrait un long entretien où il expliquait sa démarche et soulignait notamment l'aspect social de ses films. On l'écoute.
Ces jeunes hommes qui sont venus à la ville se heurtent à la ville. Et ce heurt est particulièrement brutal à Accra. Il s'ensuit certaines déviations mentales, certaines névroses, et les Africains ont trouvé le moyen de guérir ces névroses, alors que nous, Européens, nous les connaissons encore mal ces remèdes. Mon film est, si vous voulez, un film qui est peut-être quelquefois assez violent, mais dont le but, le point de départ était, pour une fois peut-être, c'est de l'Afrique que les Européens apprendront quelque chose. Car je pense que, justement, dans le domaine psychologique, psychiatrique, psychanalytique, certains Africains sont très en avance sur nous. Ils connaissent des techniques thérapeutiques que nous ne connaissons pas encore. Et ce film montre justement l'une de ces techniques thérapeutiques par l'emploi de danse de possession, grâce à laquelle des hommes que je suis pendant ce film, qui ont des ennuis parce que, comme je vous l'ai dit, la ville les a heurtés, arrivent à se débarrasser de leurs complexes, de leurs névroses, et à redevenir, la semaine qui vient, des hommes comme les autres.
Voilà, avec la colonisation des pays comme la France, on pensait pendant longtemps qu'ils avaient beaucoup à apprendre à l'Afrique, à ces sociétés. Là, Jean Rouch, en 57 déjà, inverse complètement le présupposé aussi à travers ses films, et dit clairement qu'il ne veut pas se cantonner à des aspects esthétiques, il ne veut pas non plus exotiser à travers ses films la société qu'il raconte et qu'il décrit. Qu'avons-nous, à vos yeux, à apprendre des personnages de votre film Corto Vaclav?
C'est très beau d'entendre Rouch, parce que je trouve que justement avec les Maîtres fous, il était arrivé dans cette direction-là, un peu analytique, de remettre la sorcellerie et la possession au centre de la rencontre entre le capitalisme et la tradition. C'était presque un peu indépassable comment les dominés, qui ont une part spirituelle extrêmement forte en eux, réussissent à remettre en scène cette domination où d'un coup ils deviennent les maîtres en étant possédés par l'esprit de la reine d'Angleterre, etc. Comme on le voit dans le film de Rouch. Et ben, c'est vrai que c'est comme un remède, on peut le dire. C'est-à-dire que cette approche me semble quand même, même si elle est très poussée, elle reste un petit peu limitée au sens où la magie en Afrique n'est pas seulement un remède, n'est pas seulement une réponse, est vraiment quelque chose de profondément ancré. Les réalités magiques sont liées toujours aux ancêtres, aux gens qui ont vécu avant. Je pense que ce que notre monde a à apprendre de l'Afrique aujourd'hui, c'est le fait de se remettre dans une conception de groupe et presque d'héritier, c'est-à-dire que notre société exacerbe l'individualisme, le génie d'une personne, sa force, le self-made man, or qu'en Afrique, on rappellera toujours que la beauté d'un homme ou la fertilité d'une femme, son intelligence, sa possibilité de gagner de l'argent, ne lui appartient pas, elle appartient au groupe, elle appartient à la famille, car les ancêtres ont réparti leur pouvoir, ont réparti leurs compétences, leurs attributs aux différents membres de la famille. Et moi, je trouve que c'est quelque chose d'assez essentiel parce que c'est aussi le moyen de repenser la société. Et je crois que l'Afrique l'a encore profondément et lutte justement avec cet individualisme grandissant. Et il faudrait qu'on puisse, selon moi, c'est très personnel, mais j'aimerais penser à des sociétés beaucoup plus de groupes, de solidarité de groupe, tels que profondément ancrés dans les sociétés Congo, en tout cas.
C'est aussi un film sur la force des traditions, la force du collectif, comme vous l'évoquiez à l'instant, Corto Vaclav. Adrien Lavapeur, vous avez le sentiment d'avoir filmé un monde en voie de disparition, ou bien au contraire, un monde refuge, un monde peut-être encore bien vivant?
On pourrait dire... c'est un petit peu les deux, parce que moi, j'ai quand même eu l'impression de faire un voyage dans le temps, à travers, en filmant cette église, qui faisait souvent des pèlerinages dans les forêts, dans les ravins, dans les montagnes, toujours magnifiquement habillé avec des tissus rouges et blancs. Et c'est vrai que parfois, moi j'avais l'impression de faire des images d'un film du Moyen-Âge, enfin, en tout cas absolument intemporel, et que c'était un monde ancien qui n'existe plus en tout cas, ou très peu dans notre réalité française. Et donc il y avait une sorte de voyage dans le temps, personnellement en tout cas. Mais non, je pense que ces traditions mystiques sont extrêmement modernes, et en plus elles ont la faculté de se réinventer à chaque fois et de s'adapter. Et par exemple, si on prend les Ngunza, donc qui est cette église sur laquelle on a fait le film, quand ils ont été colonisés, ils ont réussi à syncrétiser, c'est-à-dire qu'ils ont mis des, comme les colons voulaient qu'ils aient l'apparence de bons catholiques, et ben ils ont fait une équivalence sur les saints, c'est-à-dire que quand on leur demandait de prier la Vierge Marie, ben par exemple ils priaient les sirènes, voyez, ils ont trouvé une technique pour continuer leur croyance, mais tout en faisant plaisir aux blancs. Et donc voilà, je pense que c'est une tradition qui de toute manière continuera. Elle est assez élastique pour pouvoir résister à différents problèmes qui arriveront au futur.
France Culture, il est presque 13h20.
France Culture, la grande table, Olivia Jesbert.
En salle depuis lundi, ou plutôt de retour en salle depuis lundi, parce que le film était sorti juste avant le confinement, Congo, du réalisateur Adrien Lavapeur et de son complice, réalisateur également et anthropologue de formation, Corto Vaclav, film présenté l'an passé dans la sélection Acide du Festival de Cannes, où votre héros, d'ailleurs votre personnage principal, l'apôtre Médard, était venu d'ailleurs présenter le film à vos côtés. Le film commence comme un conte, en voix off. Dans notre pays, République des Ténèbres, c'est après minuit que les sorciers se dédoublent. Leur corps inerte reste au lit, tandis que leur deuxième corps se transforme en cafard et s'introduisent dans des maisons pour capturer les âmes. Le lendemain, sans rien y comprendre, leurs victimes vivent des souffrances terribles. Méfiez-vous, car dans le monde visible, les sorciers sont souvent des personnes d'apparence très respectable. C'est une histoire que vous nous racontez à travers ce film qui dure un peu plus d'une heure, mais qui a été réalisé sur un temps extrêmement long, vous l'évoquiez, Adrien Lavapeur. Mais c'est aussi votre personnage principal qui se raconte. Hein. Il est un acteur à part entière de ce documentaire. Comment lui vous a présenté son rôle? Comment lui vous a fait adhérer, ou en tout cas vous a donné envie de croire à ses propres croyances? Comment il se présente?
Oh, mais Médard, déjà, le jour où on s'est présenté à lui, on avait l'impression qu'il nous attendait. Donc je pense que il avait besoin de cette caméra. Il faut savoir qu'il n'y a jamais eu de film fait sur cette tradition de Ngunza. Et nous, on l'a vraiment suivi. Hein. C'était un film en immersion.
Est-ce qu'il a essayé de vous convaincre, ou est-ce que c'était pas la peine? Est-ce qu'il a eu des choses à vous cacher, d'après le sentiment que vous avez pu en avoir? Ou est-ce qu'il a pu avoir peur que vous lui voliez certains de ses secrets? Ou il vous a tout montré, tout donné, d'une certaine manière, à la caméra?
Non, mais après, il y a une partie invisible, et forcément, dans ces rituels, je ne connais pas les ingrédients de sa recette, mais c'était pas tellement ça qu'on cherchait non plus. Non, Médard, il nous a fascinés, hein, d'abord, parce que c'est quand même un personnage. Il a beaucoup de contradictions, mais c'est vraiment d'abord un personnage de cinéma. Et je pense qu'à un moment, il a eu besoin de la caméra aussi. Il a commencé à, parce que il a vraiment aimé qu'on le filme. En même temps, ça lui donnait un peu plus de prestige dans son quartier qu'il y ait deux blancs qui le suivent comme une équipe de reportage. Ça lui donnait un peu plus de pouvoir, de crédibilité. Et puis petit à petit, c'est vrai qu'il a appris à se placer, parce qu'on l'a un peu guidé sur quand on le filmait. Ben, c'est mieux s'il est pas de dos, s'il arrive un peu à nous voir sans nous voir. Et donc il s'est vraiment prêté au jeu. Et en même temps, ça a été difficile pour lui, parce que ça, c'était 6 ans, c'était long, et puis, et en fait, la force des Congolais aussi, c'est qu'ils sont extrêmement dans l'instant. C'est qu'ils, moi, j'ai l'impression qu'ils ont une présence en plus par rapport à nous, qui pouvons aussi faire des projets dans 3 ans, je ferai ça dans le mois prochain, j'irai à tel endroit. Au Congo, il y a une telle précarité que on est dans l'instant présent et on sait pas forcément, les Congolais ne savent pas forcément qu'est-ce qu'ils vont manger le soir même. Et donc, la vie est très intense.
Et son vécu, en même temps, est extraordinaire pour un regard occidental comme le nôtre. Mais en même temps, son imaginaire, il est vraiment en phase avec celui de la société qui l'entoure dans votre film Congo. C'est un documentaire, mais qui ne se prive pas, on l'a déjà évoqué, ou qui ne prive pas le film d'une réelle dramaturgie. Parce que l'apôtre va être accusé de sorcellerie. Vous saviez que ça allait arriver, où il y a une part de reconstitution. Pareil, cette situation vous est arrivée sur un plateau.
Mais non, simplement, un jour, Médard nous a dit qu'il fallait aller au tribunal. Tribunal de Terikyo. Donc c'est un tribunal coutumier, qui est dans le même quartier que l'église. Et ce tribunal a pour spécificité de juger des histoires de sorcellerie. Donc ce sont des juges qui sont habillés en toge noire, enfin, un peu comme chez nous. Visuellement, c'est la même organisation, sauf que ils débattent de mauvais esprits, d'éclairs mystiques, d'attaques, de pièges, de sorcellerie, de diables. Et donc, ça nous a vraiment fascinés. Mais nous, en fait, on est vraiment arrivés. Cette séquence de jugement, c'était pas du tout prévu, et je ne savais pas qu'est-ce qui allait se passer parce que Médard m'avait pas vraiment expliqué. En fait, il venait pour soutenir une de ses adeptes, qui a porté plainte après avoir reçu une nuit un éclair pendant la saison sèche, ça veut dire que c'est ciel bleu pendant 4 mois. Cet éclair a frappé sa maison et a tué sur le coup ses 2 enfants. Et en même temps, lui a traversé le bras et son bras est immobilisé. Puis on peut voir qu'il a presque une brûlure avec l'entrée de l'éclair et une autre brûlure un peu plus loin avec la sortie de l'éclair. Et donc cette fille-là vient au tribunal pour porter plainte contre son mari, qu'elle accuse d'avoir commandité l'éclair pour tuer ses enfants. Donc c'est une forme de sacrifice. Et ça, c'est un peu la base de la sorcellerie, le sacrifice humain, et parce que certains esprits qui maléfiques ont besoin de sang pour se nourrir, et en même temps, ils ont du pouvoir de, par des voies un peu complexes, qui sont un peu, je sais pas si on a tellement le temps de développer là-dessus, mais qui sont capables de donner de l'argent aux personnes qui font ce sacrifice.
Voilà. Puis alors lui nie complètement avoir utilisé ou abusé de la magie noire. Il va devoir passer une épreuve, l'épreuve du mortier, jurer devant cet objet sacré qu'il est innocent. On retrouve donc ce cérémonial du procès qu'il va devoir endurer, accusé de sorcellerie. La place de la musique, Corto Vaclav, elle est très importante dans le film aussi. Elle est au service du récit, de la magie peut-être même du récit. C'est aussi une manière de donner une voix ou un langage aux esprits qui sont convoqués dans ce film et par essence infilmables, immontrables.
Oui, c'était l'idée d'accompagner et de donner une voix, on peut le dire, à ces esprits aquatiques qui ont un rôle central dans le film, les sirènes, qui sont vraiment à l'image des mythes homériques, avec une femme ou un homme, mi-poisson, mi-humain, avec lesquels il est possible de rentrer en contact. Alors c'est vrai que nous, ça nous paraissait plutôt une légende au début, jusqu'à ce que peu à peu, elle se manifeste à nous par différents signes, et jusqu'à ce que finalement on puisse arriver à les voir et les rencontrer. Et de là, elles ont pris une place centrale dans le film et dans l'aventure de Médard, et on a accompagné ces séquences-là, mais très intuitivement, sans réfléchir vraiment au fait qu'il faudrait qu'on mette en musique ces esprits des sirènes. Ce sont la rencontre avec Gaspard Claus pour toutes les parties du violoncelle d'abord, et Michel Redolfi pour ce qui est de la séquence finale, dont on parlera pas ici, mais qui est très lié aux sirènes aussi. Et ces musiques nous ont vraiment accompagnés dans le montage, nous ont accompagnés dans la recherche de certains plans. Donc ça a été une part importante du processus pour parler de ces sirènes.
Les sirènes qu'on a plaisir à retrouver, peut-être plus que les diables qui s'emparent des corps. En tout cas, ça rejoint plus facilement nos imaginaires et elles occupent, elles vivent pour certaines dans cette source d'eau. Elles s'y cachent, source d'eau menacée par les tractopelles chinoises. Et elles font d'ailleurs appel à l'apôtre pour les aider. Là, ce qui est intéressant, c'est que à travers cette histoire-là, vous montrez autre chose qui est difficile à filmer. En marche, c'est pas le cœur du récit, mais c'est cette mainmise de puissances étrangères sur les imaginaires, ceux des puissances colonisatrices, mais aussi les puissances actuelles hein, sur l'économie du pays, et notamment la Chine. C'est cette réalité contemporaine qui vous a rattrapé, Adrien Lavapeur.
Oui, c'était pas prévu. Alors bon, c'était plutôt une... On voulait plutôt aussi parler du capitalisme sauvage, hein. C'est pas spécialement les Chinois qu'on voulait indexer, mais sauf qu'ils étaient là et en même temps c'est une forme de métaphore du monde moderne là qui est en train de détruire tout ce qu'il y a de plus précieux dans la planète, c'est-à-dire la nature, les traditions, les esprits, et on retrouve un peu Médard en une sorte de héros seul contre tous à devoir sauver ces sirènes qui se retrouvent dans une chute menacée de destruction par les tractopelles chinoises. Et en fait, on est très content parce que finalement, il y a une dimension écologique dans ce film. Mais ça, c'était malgré nous. C'était pas du tout prévu. Mais des fois, en fait, c'est la vie qui a fait le scénario. Nous, on était là un peu avec du temps, mais nous sommes juste des intermédiaires, on pourrait dire.
Et c'est une belle définition du métier de réalisateur ou de cinéaste aujourd'hui. Adrien Lavapeur, Carto Vaclav, merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous. Congo, votre film, présenté donc dans la sélection Acide du Festival de Cannes l'an passé, en salle depuis début mars dernier, avec fermeture et réouverture, et donc à voir au cinéma, et peut-être prochainement à la télé. Ça, il faudra suivre... l'économie et la temporalité de l'un et de l'autre. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous et un grand merci à toute l'équipe de La Grande Table.